Bon matin à tout le monde. Il y a 2 semaines que nous avons commencé un thème. Je vous avais dit que on va faire tourner autour de ce thème dans les prochaines prédications. Quand j'ai commencé, le thème était la vie en Christ. On a vu que la vie en Christ, c'est quelque chose que tout chrétien doit savoir parce que ça implique de nouvelles réalités. Parce que, comme la Bible le dit, c'est comme si nous déménageons d'un endroit à un autre. Initialement, nous sommes dans le monde de ténèbres, mais quand nous accueillons le Seigneur dans notre vie, nous déménageons, nous vivons dans le monde spirituel. Et souvenez-vous quand Jésus priait pour une dernière prière de Jésus pour les disciples, il a dit que ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. C'est ça que nous sommes. Nous sommes dans le monde, mais nous vivons une autre vie, un autre mode de vie. C'est pour cela que pour nous les chrétiens, c'est important de savoir comment vivre dans ce monde. Alors, je vous disais que dans ce monde, ce n'est pas tout n'est pas parfait, ce n'est pas une ligne droite, comme souvent on nous a prêché quand on accueille le Seigneur pour la première fois. Je me rappelle que des fois, les prédicateurs disaient, venez, Jésus donne la paix, vous serez déchargés. Oui, c'est vrai. Mais l'autre côté, ils ne nous disaient pas, ils ne nous disent pas qu'on commence maintenant le combat. On engage le combat. C'est ça que je vous ai dit, qu'une fois que nous déménageons du monde de ténèbres vers la lumière, maintenant, c'est comme nous nous manifestons contre l'ennemi et lui aussi commence le combat maintenant. Il commence à nous combattre fortement, donc il s'organise avec toute son armée pour nous ramener dans son royaume. La semaine passée, nous avons eu la chance aussi de, toujours dans le même style, notre frère parfait nous a partagé un message. Je ne vais pas vraiment y revenir, mais il a donné beaucoup d'exemples où il nous disait que vivre en Christ, ça implique le renoncement de soi-même. Il nous a donné beaucoup d'exemples bibliques où beaucoup de gens, pour avoir Jésus dans leur vie, ou bien pour avoir des choses de grande valeur, il a failli vendre, il a failli laisser tomber tout ce qu'ils avaient avant. Vers la fin, il a résumé sa prédication en disant que, donc, on est né de nouveau car on est en Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Donc, nous commençons une nouvelle vie. Nous sommes en fait des nouvelles créatures. Amen. Nous sommes des nouvelles créatures dans ce nouveau monde où nous vivons avec le Christ, mais dans le monde. Aujourd'hui, alors, je vais vous partager un thème qui nous parle d'une nouvelle identité. Vous savez, quand on a déménagé de chez nous, quand on a émigré de chez nous vers le Canada, la chose qui nous inquiète souvent, c'est d'avoir ce qu'on appelle les papiers d'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. En fait, c'est un bluff, s'identifier, arriver à s'identifier en tant que Canadien, citoyen canadien. C'est ça le combat de tous les immigrants. Ça veut dire quoi? Nous étions chez nous, nous avions une identité. Chaque, peut-être pour ceux qui sont venus à l'âge quand même adulte, vous aviez des identités. Mais quand on arrive ici, il a failli changer d'identité. Parce que c'est comme si nous avons quitté des mondes pour aller d'un pays à l'autre. Alors, comme je vous ai dit, ou bien comme on l'a dit, si nous avons déménagé du monde de ténèbres dans le monde de lumière, où règne la lumière, où Jésus règne. C'est-à-dire qu'on doit avoir une nouvelle identité. Amen. On doit avoir une nouvelle identité. Alors, on va se baser au passage qui se trouve dans Jean 1, chapitre 1, 12 à 13. C'est un verset qui va nous aider dans notre prédication, dans notre enseignement d'aujourd'hui. Et c'est un verset que beaucoup, sinon la majorité, connaissent par cœur, parce qu'on nous a enseigné ça pendant longtemps et nous avons lu ça aussi nous-mêmes pendant longtemps. Jean, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Il est écrit, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Parfait. Est-ce que tu peux nourrir dans ta version? J'aimerais que les gens puissent comprendre mieux ce verset parce que c'est important. C'est ça qui a fait que notre identité change.
Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Alors, une identité, tout le monde connaît une identité, je pense à chaque personne ici. Si je vous demande de vous me montrer une identité, une carte d'identité, sans doute, même si on n'a pas d'argent, mais on a la carte d'identité sur toi. Oui, ça c'est sûr. Peu importe où vous êtes, vous avez la carte d'identité. Alors, de façon administrative, on reconnaît la personne par sa carte d'identité. À chaque fois que vous vous adressez à un endroit pour demander un service, pour vous identifier, ils vont vous demander, pouvez-vous me donner deux cartes d'identité? Des fois, ils disent, deux cartes d'identité sur lesquelles il y a votre nom et votre photo. C'est juste pour confirmer que le nom qu'on voit sur la carte est bien conforme à la personne devant moi ou devant l'officier. Et c'est pour confirmer aussi que la photo qu'on voit sur la carte est bien la personne. C'est des choses normalement importantes, physiquement qu'on vérifie. C'est vrai quand on appelle par téléphone, il y a des fois où dans certains endroits, ils ont mis d'autres systèmes pour reconnaître la personne. Ils vont vous demander quelle année, quelle votre année de naissance. Vous connaissez tous. Mais pour vous dire que l'identité, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne, peu importe où vous êtes. Naturellement aussi, on peut vous reconnaître. Moi, je me rappelle quand j'étais là où je suis grandi, ou bien je m'excuse de donner des exemples d'où je suis grandi parce que ça fait partie de moi. Et la réalité de là, peut-être, je me trouve souvent dans des exemples de là que peut-être ici parce que, bien sûr, j'ai été là pendant longtemps. Alors, il y avait des fois où je passais à côté des gens, pas forcément que je reconnaissais, mais surtout des vieilles personnes, des aînés. Ah, j'attends dire, ou bien ça vous est arrivé peut-être, je les attends dire, ah, son fils, ce garçon, c'est le garçon de Michel. Mon père s'appelait Michel. Je ne me questionnais pas beaucoup, mais parce que les personnes qui disaient, souvent comme ça, ce ne sont pas des personnes qui me connaissent forcément. Mais parce qu'ils connaissent mon père, le fait qu'ils me voient avec quelques traits, je voulais ici signifier que naturellement, on a d'autres façons d'identifier la personne. Quand on connaît son père ou sa mère, c'est facile des fois d'identifier l'enfant. Soit on dit, ah, tel enfant a un front pareil à son père. Cette fille a la même tête que, je ne sais pas, sa mère. Donc ça, c'est des façons naturelles pour nous tous d'identifier les gens. Ça se fait, ça peut se faire peut-être même ici, mais pour vous dire que dans la vie, non seulement qu'on a des cartes d'identité, il y a d'autres choses qui peuvent nous identifier avec d'autres personnes. Et si je voulais dire les traits physiques, les traits qu'on peut voir physiquement, et même la voix, et tu peux parler, ah, mais tu parles comme tel. Est-ce que c'est, vous avez derrière? Ça peut tomber, ça peut arriver aussi que les gens parlent de la même façon. Et c'est vrai, ça c'est aussi une façon d'identifier la personne de façon naturelle. La façon dont nous marchons aussi, oui, la façon dont nous marchons, il y a plein d'autres façons d'identifier la personne. Je dis naturellement, au début je vous ai dit administrativement, mais naturellement aussi, il y a ces façons. Alors, à partir de tout ce que je viens de décrire pour l'identité, tout ça c'était pour vous montrer combien l'identité est si importante pour nous dans la vie de tous les jours et comment on peut nous identifier, pas forcément que nous avons montré notre identité, seulement en passant, on vous identifie parce qu'on connaît l'autre personne à qui on vous identifie. En Christ aussi, nous nous identifions en Christ quand on est chrétien. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, on arrive la fois passée, les choses anciennes sont passées, voici, tout sont devenus nouvelles. C'est devenu nouvelle à cause de Christ qui est entré en nous et des fois nous manifestons. Dans cette nouvelle identité, nous manifestons les traits pareils, les traits même physiques qui peuvent nous apparenter à Jésus-Christ. C'est comme ça, normalement, qu'on a reconnu, si vous lisez dans Actes 11, chapitre 11, verset 26, c'est comme ça qu'on a reconnu les chrétiens, ou bien c'est d'où l'origine du mot chrétien. Si quelqu'un peut nourrir ça, je sais que tu peux nourrir Acte 11, verset 26.
Acte 11, verset 26. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens.
Amen. Alors, j'ai sorti cet exemple pour justement vous montrer comment on nous identifie à d'autres personnes par la façon dont on nous voit. Jésus était mort et puis l'histoire de Jésus était déjà passée. C'est vrai qu'on se rappelait aussi de Jésus par son héritage, par les disciples, les apôtres. Mais Jésus n'était plus là physiquement. Mais les gens quand même le reconnaissaient parce qu'il enseignait, par ses enseignements, ce qu'il disait quand il était encore dans le monde. Après, je ne vais pas aller dans toute l'histoire. Il y a eu la persécution des disciples, des apôtres. On a commencé à persécuter, à tuer toute personne qui imitait Jésus, qui voulait enseigner Jésus, qui paraît que Jésus avait ressuscité, parce qu'ils ne voulaient pas entendre cela. Pour eux, il n'y avait pas la résurrection après la mort n'existait pas. Alors pour eux, dire que Jésus a ressuscité, C'était comme une façon de contredire ce qu'ils croient et c'était une façon de tirer le peuple à, je dirais, à se manifester, à contredire leurs enseignements. Et vous savez que le Torah, les enseignements, c'était vraiment quelque chose d'intouchable. C'est pour cela qu'on chassait toute personne qui enseignait, en plus qui disait que quelqu'un a ressuscité. C'est dans ce cadre qu'on a commencé à tuer les gens en premier lieu. Vous savez, c'est Étienne qu'on a tué en premier. Et cela a fait que les disciples se sont dispersés partout. Ils se sont dispersés partout, mais la Bible nous dit qu'ils arrivent à un endroit qu'on appelle Antioche. Là, ils continuent à prêcher, à parler de Jésus, à parler de la résurrection de Jésus. Dire qu'il a ressuscité. Et beaucoup de monde ont commencé à venir. Et c'est par là, quand les gens autour, les gens qui n'étaient pas forcément dans le groupe, mais qui les voyaient enseigner, prêcher, c'est eux qui les ont observés. Ils ont vu leur façon d'enseigner. Ils ont vu comment ils se comportaient. Ah, ils ont dit non. Ces gens-là, c'est les disciples de Jésus. Donc, ils sont de Christ. Ils ont suivi Christ. C'est par là qu'on a commencé à les nommer les chrétiens. En fait, c'est les païens qui les ont nommés comme ça. C'est les gens qui étaient contre et qui les ont vus enseigner, faire des miracles, mobiliser les gens. Ah, ils ont dit, ah, de telles choses se faisaient par Christ, par Jésus. Par là, ils ont pris le nom des chrétiens. Je voulais juste confirmer par cet exemple que par la façon dont nous parlons, par la façon dont nous nous comportons, par la façon dont on nous voit, on peut nous nommer, nous identifier à une personne, à Christ. Dans notre cas, à Christ. Un dernier exemple que je vais vous donner, si nous lisons dans Matthieu 26, je vais demander encore à Jésus de lire 26 et 73, Matthieu 25, 26, pardon, verset 73.
Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent.
Amen. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Amen. Donc, vous comprenez, c'est l'histoire de Pierre, car il reniait Jésus-Christ. Sans aller trop loin, le moment est venu où Jésus allait bien sûr faire ce qui lui avait amené sur terre. Le processus que ça a pris, vous savez, il a été vendu et puis on a pris. Mais avant qu'il quitte, vous savez comment il a annoncé à ses disciples qu'il allait partir, qu'il allait mourir. Et puis Pierre, qui était vraiment, qui avait l'amour à lui, l'amour de Jésus à lui, il a dit non, 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 non. Cela n'arrivera pas, jamais. Tant que je suis là, t'inquiète pas. Je veux combattre pour toi. Vous savez comment Jésus lui a répondu. En plus, Jésus lui a dit, tu vas me renier. Donc, il lui avait dit, mais Pierre ne pouvait pas comprendre parce que vraiment, il avait beaucoup d'amour pour Jésus. La façon dont il connaissait Jésus, il savait que non, il n'y a personne qui peut oser le faire. Parce qu'il croyait en Jésus de telle sorte que non, il se disait peut-être si quelque chose arrive, il va faire comme il a fait un jour. Il a fait beaucoup de miracles. Donc, je veux dire, c'est mon commentaire. Mais si je me mets à la place de Pierre, je peux dire que la façon dont Jésus a fonctionné, il pouvait même se transformer devant ses ennemis et disparaître. J'imagine que c'est ce que Pierre a commencé à dire pour dire non, Jésus, non, cela n'arrivera jamais. Mais il ne savait pas le plan de Jésus. Il ne savait pas pourquoi Jésus était venu. Oui, Pierre a promis Jésus de vraiment le suivre jusqu'à la fin. Et je dirais qu'il a essayé. Quand on a pris Jésus, la Bible nous dit que Pierre marchait à une distance quand même pour ne pas approcher la foule qui était avec Jésus, qui avait pris Jésus. Mais au moins, quand ils étaient, il les checkait, quand ils passaient à quelque part, ils étaient à quelques mètres derrière, à quelques distances derrière eux. Au moins pour voir où ils amènent Jésus, ou bien la finalité. Il a essayé parce que d'autres disciples, la Bible nous dit que quand on a pris Jésus, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Parce que c'est comme si Jésus les avait trahis. Lui, en qui ils avaient confiance qu'il allait les sauver, il allait prendre le pouvoir et régner les autres autour de lui. Mais il venait d'être attrapé comme un voleur. Mais les autres ont dit non, ça ne vaut pas la peine. Nous nous sommes trompés, mais il va retourner chez nous. Ils sont partis. Mais Pierre, parce qu'il avait donné une promesse à Jésus, je pense que dans son cœur, il y avait cette promesse qui revenait. Mais qui a dit, est-ce que tu vas partir, toi aussi? Mais qui avait dit que tu vas? Au moins, il a essayé de faire son pas. Alors, arrivé là où ils voulaient amener Jésus, Pierre aussi, dans la foule, vous savez, c'était même vers la soirée, dans la foule, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui était venu assister, parce que prendre Jésus, c'était comme peut-être prendre... ça n'a jamais arrivé, mais si on avait peut-être pris Bin Laden, armé là, comme ça. J'imagine que tous les Américains, ils allaient avoir une grande foule pour venir voir au moins avant qu'il meure, voir qui était Bin Laden. Jésus, pour beaucoup, c'était comme ça. C'était quelqu'un qui était venu pour donner des faux enseignements, pour se nommer Dieu. Alors, attraper cette personne, c'était une victoire pour pas mal de gens. Il y avait beaucoup de monde que c'était difficile d'identifier les gens. La Bible nous dit qu'ils étaient assis parce que c'était dans le froid, il faisait froid, ils avaient fait le feu, et puis ils étaient assis tout autour, en train de raconter leur journée, comment ça a été. Peut-être qu'ils se disaient, il y en avait bien sûr ceux qui pleuraient pour Jésus, qui disaient, il a fait ça, il a fait ça. Mais les autres, j'étais dans la joie, dire que on a attrapé notre ennemi de longue date. On l'a voulu, même aujourd'hui, là, rien ne va nous l'arracher dans nos mains. Parce que sachez, souvenez-vous que jusque-là, Jésus n'avait pas vraiment de preuves tangibles pour l'accuser. Il n'y avait pas de... C'était seulement de fausses accusations. Mais ils étaient là peut-être en train de dire, on va dire qu'il a, il a, il a fait ça, il a fait ça, il a dit ça. Ah, moi aussi, je me rappelle, une fois, il a dit ça, et c'était faux. Donc, ils étaient autour du fait en train de discuter différentes choses. Pierre, arrive, il entre dans la foule. La Bible nous dit, peu après, vous savez bien, si on est chrétien, même des fois l'ennemi nous parle. Moi, je me rappelle, quand j'étais au secondaire, là, et tout le monde qui a été au secondaire, peut-être était chrétien au secondaire, on était en feu vraiment avec la jeunesse, on aimait Jésus, on se privait beaucoup. Donc, on essayait tout pour être parfait. Et comme dans le groupe, on nous disait souvent, il ne faut pas se mêler dans le monde. Le monde, comme on disait, c'est nos collègues qui ne connaissent pas Jésus. Donc, ils ne sont pas dans le même groupe que nous. Et je me rappelle des fois, parce que c'était comme j'étais isolé, des fois pendant la récréation, les jeunes se regroupent et puis ils commencent à parler des choses. Peut-être les garçons, ils vont parler des filles, les filles, je ne sais pas ce qu'ils parlent, mais peut-être eux aussi. Ils avaient souvent des conversations des jeunes, mais c'est ces conversations qu'on nous empêche, que la Bible nous empêchait de faire partie. Et souvent, je me sentais aussi interpellé de dire les mots. Et je me rappelle souvent quelqu'un dans le groupe, ah, pasteur, toi aussi? Parce qu'il m'appelait, il m'appelait pasteur. Ah, pasteur, toi aussi? Donc, vous voyez, l'ennemi même, l'ennemi, des fois, il nous rappelle, toi aussi, tu peux faire des choses, tu peux parler comme ça. Donc, au moins, tu as honte, mais tu reviens à ta raison. Alors, ici, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était en train d'assister à une conversation qui ne le concernait pas vraiment. Il était en train de profiter du fait de ses ennemis. Et on a lu peu après, quelqu'un qui était là, une femme l'approche et dit, ah, toi aussi, tu étais dans le groupe de Jésus, de ce monsieur. La suite, on n'a pas lu, mais Pierre a dit, non, 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 je ne connais même pas ce monsieur. Mais je suis venu comme ça, non, j'étais avec vous. Mais là où j'ai voulu qu'on fasse attention, c'est là où, pour le confirmer, pour le faire comprendre que c'est vrai, ils l'ont dit, même ton langage te fait reconnaître. Donc, ça veut dire que tu es à la mauvaise place. Ce n'est pas ta place ici. Il a dit ça parce que on pouvait distinguer le dialecte galiléen et le dialecte judéen. Donc, les autres avec qui Jésus venait de Galilée, puis ils avaient leur façon de parler. Peut-être Pierre aussi a assisté. C'est sûr que si on l'a accusé par son langage, ce qu'il a, il a parlé. Ah, même ton langage le confirme. Qui est avec les autres. On l'a identifié par le langage. Au début, je vous avais dit que oui, on peut nous reconnaître par le langage, par nos marches. Alors, pour terminer ma prédication d'aujourd'hui, on a déménagé. On n'est plus dans le monde de ténèbres. Comme parfait, nous arrivons. Le passage de Pierre au début, la Bible nous dit que nous avons été appelés à vivre une vie de lumière. Et pour cela, il faut changer d'identité. Oui, parce qu'on a changé l'adresse. Et il faut que les gens nous reconnaissent pour ça. Mais sur quoi on nous reconnaît? Je vais vous dire quelque chose qui m'a choqué. Vous savez là où vous travaillez, on reconnaît les musulmans. On reconnaît les musulmans. Vous savez, un musulman même, là où je travaille, il me dit, il vient vite me dire, ah, Herman, est-ce que tu peux, je vais descendre pour la prière, parce que je suis musulman. Oui, j'ai une prière, et je dois prier 5 jours, ils ont des heures fixes. Ils n'ont pas honte de le dire. Oui, c'est vrai qu'ils ont des fois des tenues, mais je vais vous dire que les autres, on reconnaissent. Un musulman ne peut pas, je ne sais pas comment dire, l'expliquer, mais vous les connaissez vous-même. Mais je vais vous dire que c'est difficile de reconnaître les croyants, les chrétiens. Moi-même, je me le dis. C'est hier qu'on m'a proposé, et le chef est venu me dire, ah, est-ce que tu peux travailler demain? Je lui ai dit non, j'ai des responsabilités, j'explique un peu parce qu'il est musulman. Ah, il me dit, ah oui, c'est vrai. Je vois tes croyants. J'ai dit, depuis, c'est comme si j'ai vécu. Donc, même quand la façon dont je l'ai dit, c'était comme. J'étais gêné là. J'étais gêné. Mais je me suis dit, mais pourquoi nous avons honte de nous manifester? Ou bien, pourquoi les gens ne nous reconnaissent pas? Pourquoi les gens ne reconnaissent pas Jésus à nous? Parce que ça qui est arrivé aux chrétiens qui étaient à Antioche, on a vu ce qu'ils faisaient, ils agissaient comme Jésus, et ils ont été nommés les chrétiens. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi les croyants d'aujourd'hui, on peut passer 10 ans sans qu'on connaisse même, par ton langage même, par ta façon d'agir? C'est un devoir que je nous donne. C'est un devoir. Il faut que dans ton milieu de travail, dans mon milieu de travail, par mon langage, même si je ne parle pas, par mon langage, on me reconnaît. Par ma façon d'agir. Parce que si la Bible dit que les choses anciennes sont passées, bien aimé, je n'accepterai jamais. Ça serait ma faiblesse, ça serait ta faiblesse, mais je n'accepterai jamais que on est chrétien et rien ne change. Ça, non. Si on a traversé la ligne pour quitter le milieu obscur, le monde obscur, pour aller dans la lumière, il doit y avoir un changement, même visible. C'est un devoir pour moi et pour nous tous. C'est il faut que les gens nous reconnaissent par notre identité. Nous n'avons pas des identités pour dire que oui, on va, si on arrive au travail, on va sortir les cartes d'identité pour montrer aux gens, oui, on donne pas les cartes. Mais c'est par ce que nous reflétons qui va montrer que le monde va nous reconnaître. C'est ça l'identité que nous avons, que les autres vont voir et nous identifier à Jésus, à Christ. Amen. Je pense que il faut que nous ayons cette identité, parce que vous savez, les gens qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas d'identité ici au Canada, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Peut-être moi, je ne peux pas le sentir, parce que je suis venu, tout était là. Merci à ma femme. Tout était là. Mais je sais que les gens souffrent beaucoup. Les gens souffrent beaucoup si on n'a pas l'identité, la carte de résidence, je ne sais pas, permanent. Est-ce que nous souffrons quand on n'a pas aussi la carte d'un croyant? La carte qui n'est pas un papier, la carte qui n'est pas, mais pas ce que nous reflétons. Est-ce que nous souffrons de voir que le monde ne reconnaît pas qui nous sommes? C'est un devoir, c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir. Parce que, comme on va continuer à le voir, on y reviendra même. Il faut qu'on différencie, que le chrétien sache qu'il est dans le monde, mais qu'il n'est pas du monde. On a une identité différente de ceux qui sont dans le monde. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Je sais pas quelle peut-être sorte de prière que tu vas adresser au Seigneur. Si peut-être tu vois encore, si les gens ne peuvent jamais tout. Peut-être tu es encore. Ivoirien, les gens non, tu es ivoirien ou rwandais, alors que tu es au Canada. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais des fois, il faut quand même avoir quelque chose qui montre que tu es canadien aussi. Pour nous, il faut prier pour que le Seigneur nous aide à s'identifier à Christ. Et qu'à travers ça, le monde puisse changer. Le monde puisse nous voir et changer. Prions. Nous te bénissons, Père, de tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Merci pour le message. C'est toujours un message qui nous rappelle qui nous sommes, qui devons-nous être. Merci, Seigneur, parce que quand nous sommes en toi, tu veux qu'on connaisse tout ce qu'il faut pour être avec toi, pour vivre ta vie, la vie que tu as. Tu nous as donné, tu as tu as mis en place. Seigneur Jésus, je sais que quand nous quittons le monde de ténèbres, le combat commence. L'ennemi, il veut nous ramener coûte que coûte dans son milieu. Il veut que nous retournions dans le monde de ténèbres. Mais nous refusons au nom de Jésus-Christ. Nous refusons. Nous voulons quitter complètement son milieu pour être dans ton milieu. Nous voulons changer d'identité. Nous voulons avoir cette nouvelle identité. Nous voulons t'identifier. Nous voulons, Seigneur, refléter ton nom partout où nous passons. Parce que nous venons de voir que même par nos langages, par nos actions, les gens peuvent nous reconnaître. Alors, je ne sais pas pour mes frères et sœurs, mais regarde la prière de tout un chacun. Regarde, Seigneur, si quelqu'un souhaite vivre vraiment une vie en toi, une vie complète en toi, viens pour l'aider, Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous sommes incapables de le faire. Nous sommes incapables, Seigneur, de convaincre même la chair. La chair veut vivre le monde ancien. La chair veut vivre le monde, Seigneur, où tout était permis. Dans le monde de l'ennemi, dans le monde de ténèbres, où on n'arrive pas à différencier les choses. Mais nous voulons vivre dans le monde de lumière, où le Saint-Esprit nous éclaire, où la lumière nous éclaire. Et comme ça, nous marchons selon toi. Merci Seigneur. Bénis son peuple. Bénis tout ce qui a écouté. Aide chaque personne, Seigneur, à agir. C'est ce que la parole lui a dit. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.